Chapitre 33. Personne ne sut dans le pays que Landry y était venu. Quelqu'un qui l'aurait pu dire à Sylvinet l'aurait fait retomber dans son mal. Il n'eût point pardonné à son frère d'être venu voir la Fadette et non pas lui. À 2 jours de là, la petite Fadette s'habilla très proprement, car elle n'était plus sans sou ni maille, et son deuil était de belles sergettes fines. Elle traversa le bourg de la Cosse, et comme elle avait beaucoup grandi, ceux qui la virent passer ne la reconnurent pas tout d'abord. Elle avait considérablement embelli à la ville. Étant mieux nourrie et mieux abritée, elle avait pris du teint et de la chair autant qui convenait à son âge, et l'on ne pouvait plus la prendre pour un garçon déguisé, tant elle avait la taille belle et agréable à voir. L'amour et le bonheur avaient mis aussi sur sa figure et sur sa personne ce je ne sais quoi qui se voit et ne s'explique point. Enfin, elle était non pas la plus jolie fille du monde, comme Landry se l'imaginait, mais la plus avenante, la mieux faite, la plus fraîche et peut-être la plus désirable qu'il y eût dans le pays. Elle portait un grand panier passé à son bras et entra à la Bessonnière où elle demanda à parler au père Barbeau. Ce fut Sylvinet qui la vit le premier et il se détourna d'elle tant il avait de déplaisir à la rencontrer. Mais elle lui demanda où était son père avec tant d'honnêteté qu'il fut obligé de lui répondre et de la conduire à la grange où le père Barbeau était occupé à chapuser. La petite Fadette, ayant prié alors le père Barbeau de la conduire en un lieu où elle pût lui parler secrètement, il ferma la porte de la grange et lui dit qu'elle pouvait lui dire tout ce qu'elle voudrait. La petite Fadette ne se laissa pas y sortir par l'air froid du père Barbeau. Elle s'assit sur une botte de paille, lui sur une autre, et elle lui parla de la sorte. « Père Barbeau, encore que ma défunte grand-mère eût du dépit contre vous et vous du dépit contre moi, il n'en est pas moins vrai que je vous connais pour l'homme le plus juste et le plus sûr de tout notre pays. Il n'y a qu'un cri là-dessus, et ma grand-mère elle-même, tout en vous blâmant d'être fière, vous rendrait la même justice. De plus, j'ai fait, comme vous savez, une amitié très longue avec votre fils Landry. Il m'a souvent fois parlé de vous, et je sais par lui, encore mieux que par tout autre, ce que vous êtes et ce que vous valez. C'est pourquoi je viens vous demander un service et vous donner ma confiance.
Parlez, Fadette, répondit le père Barbeau. Je n'ai jamais refusé mon assistance à personne, et si c'est quelque chose que ma conscience ne me défende pas, vous pouvez vous fier à moi.
Voici ce que c'est, dit la petite Fadette en soulevant son panier et en le plaçant entre les jambes du père Barbeau. Ma défunte grand-mère avait gagné dans sa vie à donner des consultations et à vendre des remèdes plus d'argent qu'on ne pensait. Comme elle ne dépensait quasi rien et ne plaçait rien, on ne pouvait savoir ce qu'elle avait dans un vieux trou de son cellier qu'elle m'avait souvent montré en me disant « Quand je n'y serai plus, c'est là que tu trouveras ce que j'aurai laissé. C'est ton bien et ton avoir, ainsi que celui de ton frère. Et si je vous prive un peu à présent, c'est pour que vous vous en trouviez davantage un jour. Mais ne laisse pas les gens des lois toucher à cela. Ils te le feraient manger en frais. Garde-le quand tu le tiendras. Cache-le toute la vie pour t'en servir sur tes vieux jours et ne jamais manquer. »
Quand ma pauvre grand-mère a été ensevelie, j'ai donc obéi à son commandement. J'ai pris la clé du cellier et j'ai défait les briques du mur à l'endroit qu'elle m'avait montré. J'y ai trouvé ce que je vous apporte dans ce panier, père Barbeau, en vous priant de m'en faire le placement, comme vous l'entendrez, après avoir satisfait à la loi que je ne connais guère et m'avoir préservé des gros frais que je redoute.
Je vous suis obligé de votre confiance, Fadette, dit le père Barbeau sans ouvrir le panier, quoiqu'il en fût un peu curieux. Mais je n'ai pas le droit de recevoir votre argent ni de surveiller vos affaires. Je ne suis point votre tuteur. Sans doute votre grand-mère a fait un testament.
Elle n'a point fait de testament. Et la tutrice que la loi me donne, c'est ma mère. Or, vous savez que je n'ai point de ses nouvelles depuis longtemps et que je ne sais si elle est morte ou vivante, la pauvre âme. Après elle, je n'ai d'autre parenté que celle de ma marraine Fanchette, qui est une brave et honnête femme, mais tout à fait incapable de gérer mon bien et même de le conserver et de le tenir serré. Elle ne pourrait se défendre d'en parler et de le montrer à tout le monde, et je craindrais ou qu'elle n'en fît un mauvais placement, ou qu'à force de le laisser manier par les curieux, elle ne le fît diminuer sans y prendre garde. Car la pauvre chère marraine, elle n'est point dans le cas d'en savoir faire le compte.
C'est donc une chose de conséquence ? Dit le père Barbeau, dont les yeux s'attachaient en dépit de lui-même sur le couvercle du panier, et il le prit par l'anse pour le soupeser. Mais il le trouva si lourd qu'il s'en étonna et dit « Si c'est de la ferraille, il n'en faut pas beaucoup pour charger un cheval. » La petite Fadette, qui avait un esprit du diable, s'amusa en elle-même de l'envie qu'il avait de voir le panier. Elle fit mine de l'ouvrir, mais le père Barbeau aurait cru manquer à sa dignité en la laissant faire. « Cela ne me regarde point, dit-il. Et puisque je ne puis le prendre en dépôt, je ne dois point connaître vos affaires. » « Il faut pourtant bien, père Barbeau, dit la Fadette, que vous me rendiez au moins ce petit service-là. Je ne suis pas beaucoup plus savante que ma marraine pour compter au-dessus de 100. Ensuite, je ne sais pas la valeur de toutes les monnaies anciennes et nouvelles, et je ne puis me fier qu'à vous pour me dire si je suis riche ou pauvre et pour savoir au juste le compte de mon avoir. » « Voyons donc, dit le père Barbeau qui n'y tenait plus. Ce n'est pas un grand service que vous me demandez là et je ne dois point vous le refuser. » Alors, la petite Fadette releva lestement les deux couvercles du panier et en tira deux gros sacs, chacun de la contenance de 2 000 francs écus.
« Eh bien, c'est assez gentil, dit le père Barbeau, et voilà une petite dot qui vous fera rechercher par plusieurs. »
« Ce n'est pas le tout, dit la petite Fadette. Il y a encore là, au fond du panier, quelques petites choses que je ne connais guère. » Et elle tira une bourse de peau d'anguille qu'elle versa dans le chapeau du père Barbeau. Il y avait 100 louis d'or frappés à l'ancien coin qui firent arrondir les yeux au brave homme. Et quand il les eut comptés et remis dans la peau d'anguille, elle en tira une seconde de la même contenance, et puis une troisième, et puis une quatrième, et finalement, tant en or qu'en argent et menue monnaie, il n'y avait dans le panier pas beaucoup moins de 40 000 francs. C'était encore le tiers en plus de tout l'avoir que le père Barbeau possédait en bâtiment, et comme les gens de campagne ne réalisent guère en espèces sonnantes, jamais il n'avait vu tant d'argent à la fois. Si honnête homme et si peu intéressé que soit un paysan, on ne peut pas dire que la vue de l'argent lui fasse de la peine. Aussi le père Barbeau en eut pour un moment la sueur au front. Quand il eut tout compté, « Il ne te manque pour avoir 40 000 francs, dit-il, que 22 écus, et autant dire que tu hérites pour ta part de 2 000 belles pistoles sonnantes. Ce qui fait que tu es le plus beau parti du pays, petite Fadette, et que ton frère, le Sauterio, peut bien être chétif et boiteux toute sa vie. Il pourra aller visiter ses biens en carriole. Réjouis-toi donc. Tu peux te dire riche et le faire à savoir, si tu désires trouver vite un beau mari. »
« Je n'en suis point pressée, dit la petite Fadette, et je vous demande au contraire de me garder le secret sur cette richesse-là, père Barbeau. J'ai la fantaisie, laide comme je suis, de ne point être épousée pour mon argent, mais pour mon cœur et ma bonne renommée. Et comme j'en ai une mauvaise dans ce pays-ci, je désire y passer quelque temps pour qu'on s'aperçoive que je ne la mérite point. »
« Quant à votre laideur, Fadette, dit le père Barbeau en relevant ses yeux qui n'avaient point encore lâché de couver le panier, je puis vous dire en conscience que vous en avez diantrement rappelé et que vous vous êtes si bien refaite à la ville que vous pouvez passer à cette heure pour une très gente fille. Et quant à votre mauvaise renommée, si comme j'aime à le croire vous ne la méritez point, j'éprouve votre idée de tarder un peu et de cacher votre richesse. » Car il ne manque point de gens qu'elle éblouirait jusqu'à vouloir vous épouser sans avoir pour vous au préalable l'estime qu'une femme doit désirer de son mari. Maintenant, quant au dépôt que vous voulez faire entre mes mains, ce serait contre la loi et pourrait m'exposer plus tard à des soupçons et à des incriminations, car il ne manque point de mauvaise langue. Et d'ailleurs, à supposer que vous ayez le droit de disposer de ce qui est à vous, vous n'avez point celui de placer à la légère ce qui est à votre frère mineur. Tout ce que je pourrais faire, ce serait de demander une consultation pour vous, sans vous nommer. Je vous ferai savoir alors la manière de mettre en sûreté et en bon rapport l'héritage de votre mère et le vôtre, sans passer par les mains des hommes de chicane, qui ne sont pas tous bien fidèles. Remportez donc tout ça, et cachez-le encore jusqu'à ce que je vous ai fait réponse. Je m'offre à vous dans l'occasion pour porter témoignage devant les mandataires de votre cohéritière, du chiffre de la somme que nous avons comptée, et que je vais écrire dans un coin de ma grange pour ne pas l'oublier. » C'était tout ce que voulait la petite Fadette, que le père Barbeau sut à quoi s'en tenir là-dessus. Si elle se sentait un peu fière devant lui d'être riche, c'est parce qu'il ne pouvait plus l'accuser de vouloir exploiter Landry.